Virgile et me suis engouffré à bord. J'ai vogué sur des mers d'extase, enlacé des constellations, chevauché sirènes et pégases dans la lumière des créations. Et un beau jour, j'ai vu Lily qui, lors d'une escale dans un square, dans sa robe à fleurs m'a souri. J'ai déserté le cargo noir. Lily et moi avons tracé, traversé l'Italie en stop, inventé de nouveaux baisers, tapis dans l'ombre des échoppes. La nuit mêlée sous le Vélux, nous échangions des apophthegmes. Je lui disais, tu es mon luxe. Elle me répondait, non, je t'aime. Nous étions souverains d'amour, trônant dans une tour d'ivoire. Et mon âme au fil de ses jours n'a plus songé au cargo noir.
Et oui, le cargo noir, c'est un mystère poétique. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM, c'est le temps des poètes, votre rendez-vous mensuel avec la poésie. Au programme aujourd'hui, petite histoire de la poésie. Nous allons parler de la Renaissance et de Clément Marot. Enfin, nous évoquerons son nom, Clément Marot, un grand poète. Dans le cadre des mouvements poétiques, nous parlerons de la période classique. Et puis, Juliette Sokolov est une jeune poétesse. J'ai pu la rencontrer et nous avons parlé de poésie d'hier et d'aujourd'hui. Elle nous lira également quelques poèmes en fin d'émission. Une petite pensée aussi pour nos collègues de Radio France qui font grève aujourd'hui et qui luttent pour leur survie et pour une radio de qualité. En tout cas, une radio de qualité, c'est Radio Libertaire sur 89.4 FM, le temps des poètes. Petite histoire de la poésie. La Renaissance, une période issue directement du Moyen-Âge, une création du romantisme pour désigner ce XVIe siècle épris d'humanisme, marqué par les découvertes, les inventions, l'imprimerie, l'Amérique. Les rapports de l'homme avec l'écriture, l'espace, l'économie sont profondément modifiés à cette époque. Les hommes de la Pléiade viennent après Rudebeuf et Villon. Ils n'inventent rien sur le plan formel. Ils récupèrent l'héritage des trouvères du XIIIe siècle et des poètes du XIVe et XVe siècle. Ronsard fait ses classes chez Lemaire de Belge, un poète qui a vécu entre 1473 et 1525, qui est un des derniers grands rhétoriqueurs et un spécialiste de la résurrection des dieux et déesses. La tradition médiévale est toujours présente, en même temps que Dubélé publie sa défense et illustration de la langue française en 1549. Amadis de Gaulle connaît un énorme succès, normal, en Gaule, en France. La nouveauté vient d'ailleurs, cependant. Une espèce de fraîcheur, un étonnement perpétuel devant les choses de la vie. La poésie accompagne un monde qui change. Le français remplace le latin. De 1530 à 1560, Dubélé, Ronsard donnent le meilleur de leur œuvre. La modernité frappe à la porte, comme avec ces vers de Melun de Saint-Gelais, poète français de la Renaissance qui eut les faveurs de François Ier et de Henri II. Quand viendra la clarté des amoureuses flammes qui mettent en liberté amants, aussi leurs dames, qui leurs pleurs tournent en ris et jaloux, bien Marie, plus à Dieu qu'il fût dit que tous ceux qu'amour presse eussent plus de crédit, chacun vers sa maîtresse, que les fâcheux maris et jaloux bien Marie. Clément Marot est l'un des plus grands connaisseurs de l'Antiquité. Quand on parle de Clément Marot, on pense tout de suite à la poésie. Tant Rithmassa, Rithma et Rithmona, qu'il a connu quel bien par rythme on a. Clément Marot, 1496-1544. Clément Marot vécu également à la même époque que François Rabelais, qui n'est pas considéré comme un poète. Il a surtout écrit des ouvrages en prose et pourtant son écriture ne manque pas de poésie. À Poitiers, où Dubélé a étudié, il côtoie Jean Boucher. C'est une époque où on se pique de faire de la poésie. Et puis il y a les poètes de Lyon avec Maurice Sève, dont l'œuvre d'Hélier préfigure Mallarmé, Valéry et René Char. Cette beauté qui embellit le monde, qu'en acquit celle en qui mourant je vis, a imprimé en ma lumière ronde, ou encore que mes sanglots pénétrant jusqu'aux cieux, émeuvent ceux qui en cruauté règnent. Louise Labbé, 1524-1566, avait épousé à 16 ans un riche marchand de cordes, d'où le surnom de Belle Cordière. Elle possédait des jardins spacieux près de la place Bellecour, où elle pratiquait l'équitation, sans toutefois monter son cheval en Amazone. Avec Maurice Sève et Pernette de Guillet, Louise Labbé appartient au groupe dit « École lyonnaise ». Bien que ces poètes n'aient jamais constitué une école au sens où la Pléiade en était une. La lecture de ses œuvres confirme qu'elle a collaboré avec ses contemporains, notamment Olivier de Magny et Jacques Pelletier du Mans, autour de l'atelier de l'imprimeur Jean de Tournes. Elle écrit des poèmes à une époque où la production poétique est intense. La poésie française se donne alors des bases théoriques avec Dubélé, Défense et illustration de la langue française en 1549, dont on vient de parler, et se met en place avec Ronsard, Olivier de Magny, Pontus de Tiard et d'autres, suivant le modèle de Pétrarque et d'auteurs anciens tels que Catulle et Horace ou Contreux. Chez Louise Labbé, on remarque l'influence d'Ovide qu'elle connaît bien, qu'il s'agisse des métamorphoses ou des œuvres élégiaques. En particulier, ses élégies paraissent influencées par les héroïdes. Autant qu'amour, d'homme et dieu vainqueur, faisant brûler de sa flamme mon cœur, en embrasant de sa cruelle rage, mon sang, mes os, mon esprit et courage, encore lors je n'avais la puissance de lamenter ma peine et ma souffrance. Pontus de Tiard aura participé avec un enthousiasme certain à ce grand élan de connaissance qui a enflammé le XVIe siècle, en s'imposant comme l'un des maîtres de la pensée moderniste. Ici subsiste alors l'image d'un homme épris de culture, savant, astronome, mathématicien de talent, poète et philosophe, vers qui les plus illustres et beaux esprits se sont tournés en quête de conseils et de secours spirituels. Il écrit « Les erreurs amoureuses » à Lyon en 1549, recueil qu'il prolonge jusqu'en 1555 de plusieurs ajouts. Son style se rapproche de celui de Pétrarque. Il a aussi pu être inspiré par la Délie de son ami Maurice Sève. Et le sujet en a peut-être été inspiré par Louise Labbé. En 1551, son chant en faveur de quelques excellents poètes de ce temps célèbre Dubélé, Marot et Ronsard. Au premier trait que mon œil rencontra, des moins parfaits de sa perfection, la plus grande part de ma dévotion, soudainement, en elle, idolâtra.
Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît, et que je fais.
Mmh. Des jours heureux, une colombe, des soirs qui tombent, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtés de moi, ôtés de nous. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus des combats, le cœur qui bat, les défaites souvent secrètes, et tous les doutes qu'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multiplié par les idées, divisé par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le poteau et l'herbe qui pousse entre-temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Moins ceux qui sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes. Je pose tout, je retiens une. Égal un homme en équilibre sur trois verres de Prévert, mais ce sont des verres libres.
Les mouvements poétiques aujourd'hui avec le classicisme, un courant artistique du XVIIe siècle qui renoue avec les idéaux antiques. Le classicisme est un courant qui apparaît au XVIIe siècle. Pour s'en souvenir, c'est quasiment au début du règne de Louis XIV. Les Français cherchent à imiter les anciens, les poètes de l'Antiquité. Les mots d'ordre sont équilibre, harmonie et sobriété. En cela, le classicisme est à l'opposé du mouvement baroque. À cette époque, la société est de plus en plus codifiée. Il faut être clair, carré, ordonné dans tous les domaines. C'est la règle des trois unités au théâtre, un seul lieu, une seule journée, une seule intrigue. En architecture, c'est le jardin à la française. Les jardins de Versailles en sont un très bon exemple avec leur structure symétrique et très organisée. Cela permet de montrer la grandeur du roi, la force et la rigidité de son pouvoir. Cet idéal de clarté, d'équilibre, de rigueur s'incarne dans la figure de l'honnête homme. C'est un modèle, un idéal à atteindre. Un homme du monde doit être cultivé et capable de parler d'à peu près tous les sujets. Il est courtois et modéré, agréable et poli. Les auteurs emblématiques du classicisme sont Molière, Racine ou encore La Fontaine. En poésie, c'est l'établissement des règles de la versification. Les poèmes doivent être écrits en vers dans un respect total du nombre de syllabes et de rimes. Il faut y énoncer une seule idée et aller à l'essentiel dans des poèmes courts. Le but, c'est de faire simple et concis. Pour plus de clarté, on mesure, structure, soigne l'architecture des textes. Par exemple, un sonnet est composé de deux quatrains et de deux tercets.
La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile. appelle à mon étoile qui me fera trouver le nord. Les bateaux reposent encore dans les eaux profondes du port, épuisés par leur long voyage. Moi j'en appelle au vent du large qui me fera quitter le bord. La nuit que déchire l'aurore n'est plus que l'envers du décor de tous mes rêves périssables. J'en appelle au désert de sable qui me fera trouver de l'or. Je m'en irai l'âme et le corps guidé par un commun accord de tous mes sens insatiables. J'en appelle à Dieu et à diable qui me feront trouver la mort. La fille auprès de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile.
Bonjour Juliette Sokolov, donc tu es poète. Alors je ne sais pas si on dit poète ou poétesse, c'est plutôt poétesse je crois.
Les deux me vont assez indifféremment.
Alors là en l'occurrence c'est une poétesse. Est-ce que tu peux te présenter Juliette ?
Alors, je m'appelle donc Juliette. En quelques mots, j'écris un peu, je traduis aussi de la poésie. J'en dis aussi beaucoup sur scène, sur des scènes diverses. Je suis tombée là-dedans très jeune, donc j'ai à peu près toujours aimé ça. Quelle scène ? Alors, essentiellement des scènes ouvertes. Alors, il faut savoir que la scène parisienne, j'ai envie de dire, la scène parisienne associative, des scènes ouvertes, des scènes dédiées à la poésie, est très riche, surtout depuis quelques années. Donc il y a énormément de scènes, soit plutôt des scènes ouvertes, soit des sortes de performances spontanées ici ou là. Et aussi, je passe beaucoup de temps dans un lieu qui s'appelle le Club des Poètes, qui est un lieu ouvert depuis 1961, donc pour le coup assez vieux, qui est une sorte de bar, de taverne dédiée à la poésie, où on dit de la poésie par cœur, 5 soirs par semaine.
Oui, je connais très bien le Club des Poètes. Effectivement, il y a de plus en plus de scènes. Tu pourrais nous en citer une ou deux comme ça ? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que ça revient à la mode, la poésie.
Oui, il y a eu un grand... En fait, c'est pas que moi d'ailleurs, j'avais lu un article récemment qui en parlait du fait qu'il y a une sorte de renaissance et de renouveau de la poésie depuis le début des années 2000 qui est beaucoup portée par un regain d'intérêt pour les scènes, pour tout ce qui est de l'ordre de la poésie performée. Alors je peux citer des scènes comme Mange tes mots, qui est aussi prolongée par un podcast et qui est très connu maintenant sur Paris.
Mange tes mots.
Mange tes mots. Oui. Mais il y en a beaucoup d'autres, pour n'en citer que quelques-unes.
Qu'on peut retrouver en podcast.
Oui, bien sûr, on peut les retrouver, on peut les suivre en ligne. Ils font leur propre podcast, qui est un autre moyen de mettre en lumière de la poésie contemporaine. Et en fait, comme c'est un podcast, on a quand même un rapport à la poésie qui est très auditif et vocal, qui est un peu différent d'une revue. Je pense à d'autres scènes comme Les Grandes Histoires, où c'est un peu plus mixte.
Où
il y a aussi des formes plus qui se rapprochent de la prose ou de la musique, voire du stand-up, donc c'est un peu plus divers. Je sais que au café-bar L'Eurydice, il y a aussi beaucoup de choses qui se font.
Oui, L'Eurydice, je connais, oui. Tout à fait. Je n'y suis jamais allée, personnellement. Mais...
Oui, en fait, finalement, on retrouve aussi des manifestations poétiques dans des milieux assez différents. On a des scènes plus mainstream, entre guillemets, comme l'Eurydice. Je sais que vers le Saint-Sauveur, il y a la Textape, le Crachoir, qui sont des scènes beaucoup plus marquées à gauche, en essayant de mettre en avant des voix plus de minorité. avec plus d'ouverture aussi souvent vers des formes comme le rap, le slam,
oui.
où il y a également énormément de choses à dire sur ces arts dans Paris. Il y a le festival de slam international qui était à Paris l'année dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait en termes de scène. Je sais que le Chat Noir a aussi une scène de poésie qui est assez...
On connaît le Printemps des Poètes aussi, bien sûr, c'est assez connu.
Oui,
c'est
alors,
des manifestations, il y en a dans toute la France.
Bah, le Printemps des Poètes, c'est un peu différent parce que c'est vraiment quelque chose d'institutionnel. Donc en fait, c'est un soutien institutionnel à la poésie qui est intéressant. On en entend beaucoup parler parce que ça a des gros impacts sur le milieu scolaire, en fait.
Ouais.
Comme à l'occasion du Printemps des Poètes, il y a des concours, il y a souvent des manifestations, des ateliers d'écriture aussi dans les écoles, ce qui fait que le grand public est très sensibilisé avec. Mais en fait, faut savoir aussi que tout ce qu'on voit au Printemps des Poètes, les lectures publiques dans les médiathèques, les sorties de revues, les événements dans les librairies, en fait, toute l'année, j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus. Donc je pense qu'il y a un vrai renouveau autour de la poésie. Il y a aussi le développement de l'instapoésie, des formes de poésie numérique qui sont allées croissantes, qui sont de plus en plus structurées, qui sont de plus en plus variées aussi et visibles. Et ce qui a pu contribuer... À ramener beaucoup de jeunes. Et au-delà de ça, je dirais qu'on est quand même dans une société de la forme courte, finalement, où c'est plus facile, quelque part, de lire de la poésie que de lire des récits, parfois.
Ouais.
Tant au niveau du temps que de nos capacités d'attention, qui sont peut-être de plus en plus réduites.
C'est vrai.
Qui ne veut pas dire que c'est la poésie est une mauvaise chose, mais c'est un peu une forme résistante, j'ai envie de dire,
Et puis il y a les haïkus japonais aussi,
oui,
c'est très courant.
Sûr,
ouais. Mais c'est vrai que le format court, c'est pas mal. Et pourtant, là, on a l'impression que la poésie ne se vend pas bien. Enfin, les livres de poésie.
Ah, au contraire. Moi, j'avais vu que. Alors, faut savoir que la poésie, c'est toujours mal vendu, en fait. C'est faux. Quand on dit, par exemple, que. Oh là, j'ai un gros trou là.
Rimbaud, non ?
Non. Lamartine.
Lamartine.
Lamartine, best-seller poétique et tout. Il a vendu quelques centaines de recueils pour la première édition, en fait.
Ouais.
Ça a toujours été un art, en fait, restreint et modéré.
Oui,
et en fait, les maisons d'édition de poésie, il y en a énormément.
Ouais.
Et elles subsistent économiquement. À un moment donné, ou à l'inverse, des maisons d'édition qui font que de la prose sont en train de se casser complètement la figure.
Ouais, c'est vrai.
Donc finalement, c'est quand même assez résilient. C'est un petit marché, ça l'a toujours été.
Oui, parce que alors, c'est intéressant, et on voit que tu t'y connais bien en littérature. Justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? Parce que je crois que tu as fait des études littéraires.
Oui, alors j'ai eu des études très pluridisciplinaires. À l'origine, j'étais plus intéressée par le théâtre.
Ouais.
J'ai fait Cagne, Hippocagne, spécialité théâtre. Ensuite, j'ai fait des études... en études théâtrales, en histoire de l'art et en littérature comparée. J'ai une formation plus comparatiste, mais aussi très généraliste finalement en humanité.
D'accord. Et tu as fait tes études en France ou parce que tu, je crois que tu.
Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans.
18 ans.
Parce que moi personnellement, je suis franco-russe, j'ai grandi à l'étranger. Donc je suis arrivée en France pour
en
ma
Russie,
prépa.
Ou...
Oui, en Russie, ma famille est de.
D'accord. Et donc effectivement, on voit que tu as un parcours très. Très important au niveau de la littérature.
Oui, bah ça a beaucoup joué finalement. Moi, je pense que c'est quand même difficile d'écrire sans aimer ce qu'on écrit, c'est-à-dire sans aimer la poésie et sans en lire et sans en lire beaucoup.
Oui. On va revenir sur ta poésie. Donc effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu es plus attiré par la poésie que par d'autres formes de littérature, le théâtre, etc.
C'est vrai que ça a été un coup de cœur, et dès l'enfance, la poésie, c'est vraiment venu très très tôt dans mon parcours. Il faut voir aussi que même, en fait, quand je m'intéressais au théâtre, je me suis rendu compte que je m'intéressais aux formes et aux textes théâtraux qui se rapprochaient le plus de la poésie. Par exemple, j'adorais des trucs très bizarres, Heiner Müller et le post-dramatisme allemand, où c'est des textes qui, en fait, où il n'y a plus trop d'intrigues, qui sont complètement déstructurés et tout. Et ce que j'adorais, c'est que ces textes étaient extrêmement poétiques. Par contre, d'un point de vue narration, c'est compliqué, quoi. Mais
oui,
en fait, j'aimais l'aspect poétique.
C'était
même dans
plus
théâtre.
Le style, quoi.
Oui, c'est ça. Et même les romans, en fait, j'ai énormément de mal à lire un roman dont je n'aime pas le style. Je lis beaucoup plus pour le style que pour l'intrigue.
Ouais. Bah, y a deux catégories, je pense, de lecteurs. Il y a ceux qui s'intéressent beaucoup au style, et puis ceux pour qui la fiction, l'histoire est plus importante que le style.
Oui, mais moi, c'était complètement le style. Et c'est au point où, en fait, par exemple, il y a un genre que je n'ai jamais pu lire, c'est le roman policier. J'avais jamais aimé les romans policiers parce qu'en fait, si c'est juste l'intrigue entre guillemets, l'intérêt de la lecture, ça, je décroche tout de suite.
D'accord.
C'est complètement le contraire.
D'accord. Alors, je sais pas si tu as réfléchi à la question, mais quel est ton poète préféré justement? C'est pas forcément un poète français.
Oui, c'est toujours une question très compliquée et pour moi, parce que j'ai beaucoup lu en plusieurs langues. À la lecture, parce que je lis plus de langues que je ne parle, donc je peux vraiment lire de la poésie dans 4-5 langues, je dirais.
Ah oui ? Ah oui, tu parles beaucoup de langues, alors
français, oui, bah, alors, français, anglais, russe, de base. J'ai fait des études en allemand, donc la poésie allemande, je la lis en allemand.
Ouais,
et en fait, comme j'ai fait de la linguistique slave, j'ai un peu lu, ou je lis même de la littérature polonaise ou de la littérature ukrainienne, mais en ukrainien et en polonais. Et finalement, de fil en aiguille. Ah, et j'ai fait Canipocan, donc je suis passée par la case latin-grec.
D'accord. Et justement, donc, c'est intéressant parce que tu peux comparer les poésies. Et qu'est-ce que tu préfères, la poésie française ou la poésie allemande, par exemple ?
C'est compliqué, j'ai beaucoup moins lu en poésie allemande, donc de toute manière, c'est absolument pas comparable. Et en fait, j'ai aussi des périodes au cours de ma vie. Donc par exemple, quand j'étais adolescente, c'était ma période un peu émo, crise d'ado. J'ai beaucoup grandi avec les romantiques, mais surtout avec Hugo en fait. Les romantiques, mais plutôt la deuxième génération de romantiques, le romantisme épique, politique, tout ça.
Ouais.
Et je m'en souviens parce que le premier recueil de poésie qu'on m'a offert, que j'ai vraiment possédé, il y avait mon nom dessus, c'était Les Châtiments de Victor Hugo.
D'accord.
Et eux, je les avais appris par cœur. Mais c'était vraiment ma phase adolescente.
D'accord.
Et après, j'ai voulu m'en détacher et passer à autre chose parce que, je veux dire, l'alexandrin hugolien, il est très facile à parodier. Pour une raison qui fait qu'il est un peu, il fait un peu désuet, parfois il est un peu too much. Enfin, je voulais passer à autre chose, mais ça a été hyper important dans ma formation personnelle. Et après, il y a comme ça, je dirais, des pays, des périodes. Voilà.
Ouais. Donc finalement, tu as répondu à ma question, ta période poétique préférée, en tout cas à l'adolescence, c'était le romantisme.
J'avais 15 ans.
Oui, donc voilà. Mais tu fais encore très jeune, alors je sais pas. C'était il y a si longtemps que ça, l'adolescence ?
Oui, quand même. J'ai 26 ans.
D'accord.
Mais je sais que je fais jeune.
C'est vieux. ta période poétique préférée maintenant, à l'heure actuelle ?
À l'heure actuelle, tout de suite. Alors, je sors là, ces deux dernières années, j'ai beaucoup lu de poésie polonaise et de poésie polonaise du 20e. Mais j'en lis un peu moins. J'ai beaucoup lu aussi, alors pour mes études, parce que j'avais travaillé sur... la violence en littérature post-soviétique. À un moment donné, hein, dans le cadre de mes études en littérature, et je lisais beaucoup de poésie ukrainienne, j'en ai beaucoup traduit aussi, en fait. Parce que beaucoup de textes ne sont pas accessibles en français. Et notamment dans le cadre des performances que je faisais au Club des Poètes, j'aime beaucoup traduire notamment des textes contemporains en ukrainien ou en russe issus de la littérature ukrainienne pour pouvoir les dire. Donc ça, ça a aussi joué un gros rôle ces dernières années. Je dirais que je m'intéresse plus ces derniers temps à des poésies peut-être plus régionalistes, entre guillemets, même si j'aime pas du tout le mot régionaliste, parce que cet été, je lisais beaucoup de poésie occitane, de langue occitane.
D'accord.
Je pense que...
Tu arrivais à lire dans la langue occitane ?
Non. Enfin, je regarde un peu. Je peux lire, si c'est de l'ancien français, ça va, mais de la langue doc, non, c'est pas possible.
Ouais. Mais justement, moi, j'ai commencé l'émission Le Temps des Poètes en parlant des troubadours, donc là, on est en plein dedans. Hein. C'est vrai que la poésie, c'est un peu les débuts de la poésie française, en tout cas.
Oui, et puis il y a des choses très, très étranges. En fait, j'avais un peu cherché, parce que je m'intéressais beaucoup à l'éco-poésie. C'est un mouvement qui est très développé en littérature de langue anglaise, le eco-poetry, mais c'est moins présent en France. Il y a des précurseurs et tout, mais les poètes ne sont pas organisés vraiment autour de l'éco-poésie. C'est en train de naître là, mais je dirais qu'on est un peu en retard. Et en fait, je cherchais des traces de poésie avec une pensée écologique en poésie française, et je suis tombée sur une poétesse qui s'appelle Marcela Delpatre, qui est poétesse de langue occitane, de langue occitane, mais du Limousin, donc c'est un dialecte un peu particulier.
Ah bah ça tombe bien, parce que moi je suis originaire du
Limousin. Bah c'est absolument génial. Et en fait, c'est une grande poétesse des années 20 qui a été un peu marginalisée, parce qu'elle était moins à Paris, vraiment 20e, deuxième moitié du 20e. Et c'est sublime, et en fait, j'ai tout de suite trouvé là des éléments vraiment... d'éco-poésie, et je trouve que la poésie écologique en France en tout cas, c'est peut-être plus développé dans les formes régionalistes ou dans les mouvements, parce qu'on en retrouve beaucoup en poésie bretonne, parce que du côté français je suis bretonne. Et ces thématiques ont été très très présentes aussi.
Voilà, on a évoqué Marie de France dans une première émission. Je crois qu'elle faisait un peu de la poésie bretonne. Donc on a parlé des périodes poétiques. On a compris que tu avais des origines effectivement un peu étrangères, enfin russes. Mais donc tu es très très éclectique finalement en matière de poésie.
Oui, c'est même par exemple dans ma formation professionnelle, je dirais qu'il y a vraiment trois langues qui m'ont construite en poésie. C'est les poésies, alors pas tellement juste la poésie russe, mais la poésie de langue russe, parce que j'ai beaucoup lu de poésie non russe mais russophone, biélorusse, kazakh. Je me suis beaucoup intéressée aux minorités en Russie aussi, en fait, à l'époque où j'y vivais. C'est la poésie de langue anglaise. Et peut-être plus la poésie américaine que britannique quand même, parce que je connais moins bien le corpus 19e, 18e, quoi. Et la poésie, bien sûr, de langue française.
D'accord. Est-ce que on a parlé tout à l'heure de la chanson. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre la chanson et la poésie? Enfin, moi, je pense que oui, parce qu'au départ, les poésies étaient chantées.
Oui, c'est assez évident. Et en fait, il y a des allers-retours entre la musique et le texte. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont à mi-chemin. On ne sait pas trop si de la poésie, de la musique. Je dirais que c'est grâce à la poésie que je suis venue à la musique. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'avais pas du tout l'oreille musicale. Et ce qui me marquait énormément, c'était les textes. Donc en fait, c'est en commençant à écouter les chansons dont j'appréciais les textes que petit à petit, j'ai commencé à aimer la musique et être capable d'écouter les instrumentaux complets. Alors que j'ai des amis qui ont fait le chemin inverse. À l'inverse, ils avaient du mal avec la poésie. Et c'est à travers la chanson et les poèmes mis en musique qu'ils ont pu commencer à apprécier la poésie. Donc c'est très drôle de voir comment...
Oui, c'est croisé.
Ouais, en fait, exactement.
C'est très lié, effectivement. Et on le voit dans cette émission, effectivement. On passe beaucoup de chansons-poèmes et on a envie, effectivement, souvent de mettre des musiques sur les poèmes. Alors justement, l'importance de la poésie, le rôle de la poésie dans la société. Est-ce que tu penses que la poésie a un rôle à jouer dans la société?
Alors, question.
On pense surtout à la poésie politique, mais la poésie n'est-elle pas politique par nature, ou politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens subversif?
Dans le sens tout est politique,
oui,
de toute façon.
Oui, tout est politique.
Non, moi j'ai grandi dans une famille où la poésie était extrêmement présente. Elle est peut-être un peu plus présente en Russie, encore que c'est quelque chose qui est en train de complètement disparaître, malheureusement. Mon père connaissait énormément de poèmes par cœur, il en déclamait comme ça, spontanément, un peu tout le temps.
Elle disparaît à cause de la guerre, ou c'est indépendamment de la guerre?
Indirectement lié, je dirais que le fait qu'elle disparaisse est le syndrome d'une certaine mutation de la société qui est plutôt inquiétante. Et sur laquelle se greffe effectivement l'apparition de la guerre et d'autres phénomènes.
Qui devient plutôt une société de consommation matérialiste, un peu comme en Occident.
Elle était déjà, je veux dire, c'est plus... Je dirais que ça va de pair avec la perte de la culture. Il y a une poétesse russe contemporaine qui dit... en gros, c'est dans les vers d'un poème qu'elle a écrit récemment, qui dit que dans le pays de la multiculturalité, la culture s'est finie. Et dans le pays des poèmes de Serge Essénine, l'art vient de s'arrêter. Enfin, c'est le vers auquel je pensais, justement.
D'accord.
Mais c'est... je ne serais pas aussi alarmiste sur le recul de la poésie. Je pense que la poésie revient un peu toujours. Il y a quelque chose d'un peu vital. Enfin, il y a un besoin assez humain de chercher des mots. Et en fait, même par exemple, le succès, je dirais, du rap, c'est complètement ça, en fait. C'est le besoin d'une forme d'art qui passe par les mots. Et c'est chez tout le monde, en fait. C'est difficile de trouver un peuple qui ne fait pas une forme qui s'apparente à de la poésie à un moment donné.
Oui, c'est vrai. Et justement, on est dans des sociétés qui sont depuis longtemps dominées par la publicité. Qu'est-ce que tu penses du rapport de la publicité et de la poésie, justement? La publicité peut être poétique par moment, mais enfin, la publicité, elle a quelque chose à vendre. Alors que la poésie, en principe, n'a rien à vendre.
En principe. Je serais pas aussi catégorique sur la pureté de la poésie séparée du monde. Je pense que c'est un peu une image d'Épinal. Je pense que la poésie, il y a beaucoup d'ego et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais même si c'est pour draguer, en fait, on écrit des poèmes parfois parce qu'on veut quelque chose derrière.
C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça peut être pas.
L'amour, c'est plus noble du coup, on dit ça, mais ouais, au-delà de ça, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut écrire un poème.
L'amour courtois, oui, ça commence
comme ça. Oui, la moquerie pour les épigrammes, tout ça.
Bien sûr.
Donc, il y a, bon, penser à la poésie politique, ça peut être de la dénonciation, l'envie de faire passer un message, l'ego, tout simplement, l'envie de se faire mousser.
Oui, bien sûr.
C'est des choses qui existent. Après, pour la poésie, c'est vrai qu'on fait beaucoup de liens maintenant depuis le développement du slogan, en fait, dans la publicité moderne. Donc, bien sûr qu'il y a un lien, mais de la même manière que la publicité a beaucoup phagocyté et récupéré des choses dans les arts plastiques pour faire des choses plus efficaces visuellement, bien c'est sûr vrai. Qu'elle se sert dans les formes littéraires, en fait.
Oui, c'est vrai. Et quel est le mot le plus poétique selon toi?
Le mot.
Ou le mot, oui.
Alors... En français?
Alors, bon, bah, en français, pour que les auditeurs comprennent.
Il y a un mot que j'aime
après,
beaucoup.
Après, tu peux choisir un autre mot une langue. En français, dans une autre langue aussi.
Parce que j'aime beaucoup, je sais que j'avais appris récemment que le mot retrouvaille est un mot rare et qui n'existe qu'en français, justement.
Ah, c'est intéressant.
Parce qu'il n'existe pas en russe, il n'existe pas en anglais, il n'existe pas en allemand. Oui, en anglais, il n'y a pas l'équivalent exact du mot retrouvaille.
D'accord.
Et j'avais toujours trouvé ça très beau de se dire que c'est un mot typiquement français, ça.
D'accord.
C'est
poétique, effectivement, de dire qu'un mot, on trouve des mots, on découvre des mots tous les jours, effectivement. Et alors, on va en venir là, parce qu'on parle beaucoup de poésie, mais pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un poète, finalement, ou une poétesse? Hein, c'est poétesse, on dit poétesse.
On peut dire les deux. Moi, je...
Enfin, toi, tu te considères comme poète ou poétesse?
Je me considère ni comme... Enfin, je me considère pas. Non, je m'en fiche, en fait. Oui, je pense que le terme poète et poétesse, c'est pas moi qui l'utilise pour me nommer. Enfin, je peux pour me dire bonjour, je suis poète. Mais c'est plus un mot que les autres vont utiliser pour me caractériser.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est à eux de choisir. C'est pas mon problème.
D'accord. Et donc, comment tu définirais la personne qui fait de la poésie, un poète? Pour toi, c'est quoi? N'importe qui peut être poète ou...
Alors, n'importe qui.
Ou il faut absolument écrire un recueil de poésie pour être considéré comme poète? Parce que tout le monde peut dire, moi, j'écris des poèmes, mais montre-moi ce que tu fais. Et si tu n'as rien à montrer, ben bon, voilà.
Ça, après, on rentre dans le jeu des définitions. Est-ce que être un poète, c'est forcément être un poète professionnel? Est-ce qu'un poète amateur est aussi un poète? Est-ce qu'un poète occasionnel est aussi un poète? Moi, je dirais que si on écrit tous les jours, si on est vraiment... je veux dire que ça a une place centrale dans notre vie, pour moi, on est poète. Après, si on écrit un poème, et je sais pas, de temps en temps, une fois par an, parce qu'on en a besoin, on est aussi poète, peut-être plus poète à ce moment-là. Mais au moment où on le fait, on est poète. Après, je pense que je ne conçois pas le fait d'être poète comme un absolu. C'est pas je suis poète tout le temps. Je pense qu'on est poète quand on fait un poème et quand on dit ce poème. Et peut-être que c'est tout. Mais que poète, en fait, c'est peut-être plus... je dirais que c'est quand même plus une action qu'une identité.
Ouais.
Du coup, c'est pas quelque chose qu'on est tout le temps, on est au moment où on le fait.
Parce qu'on dit souvent, celui-là, il est un peu poète, sous-entendu, il est un peu tête en l'air. Ou... Ça peut avoir un sens péjoratif.
Ça peut, mais je pense que ça va aussi avec le fait on n'est pas quelqu'un de très productif et utile quand on écrit de la poésie. Donc ça peut...
Mais en même temps, on en a besoin. Parce que ça embellit un peu la vie, et on a besoin souvent d'embellir la vie avec des mots. Et puis c'est aussi l'art de trouver des sensations, des émotions nouvelles, de scruter un peu l'inconscient. Qu'est-ce que tu préfères, la poésie libre ou la poésie avec des rimes?
Ça m'est complètement égal, parce qu'en fait les deux n'ont pas le même effet, ne renvoient pas à la même époque, ne renvoient pas au même imaginaire pour moi, renvoie pas au même univers. Quand j'ai envie de lire de la poésie en vers, je prends un recueil en vers. Quand j'ai envie de lire de la poésie en vers libre, je prends de la poésie en vers libre. Et en fait, l'effet créé et tout le monde auquel il renvoie, l'époque auquel il renvoie, l'univers, sera toujours très singulier. En fait, je vois pas du tout, je suis pas dans l'opposition des formes en disant cette forme est supérieure à une autre. Je pense que chaque forme permet un effet précis et qu'il faut choisir cette forme en fonction de ce qu'on veut faire.
Et est-ce que tu travailles un petit peu justement la versification dans le but de faire des poèmes?
Le problème avec la versification, c'est qu'elle renvoie tout de suite au 19e à quelque chose de finalement très scolaire et très désuet. Ça a un effet qui est extrêmement lourd et difficile à gérer. Moi, j'en ai déjà écrit pour moi, pas des trucs que... Enfin, c'est pas des choses que je dessine à la publication.
Oui, c'est un carcan.
C'est vraiment personnel. C'est un carcan qui peut être productif, mais en fait, j'ai envie de dire, cette forme est tellement... pas juste obsolète, mais renvoie à quelque chose de tellement fort et d'implanté que j'ai l'impression souvent que la forme détruit le fond, qu'elle mange et parasite le fond, qu'on ne voit plus que le verre et qu'on oublie ce qu'il y a avec. Et en fait, c'est pas du tout une forme par défaut et c'est pas du tout une forme neutre, le fait que de choisir des alexandrins.
Ouais.
C'est pour ça que
enfin, je sais pas si tu connais
difficile à manier.
Racine, par exemple, bon, il y a beaucoup de verre et ça exprime des sentiments très forts, très puissants. Je sais pas si tu aimes bien Racine.
J'adore.
Moi aussi.
J'ai grandi.
Mais, parce que justement, il y a à la fois la forme et le fond. Quoi. Mais effectivement, des vers, des rimes sans le fond, effectivement, ça peut paraître très, très plat. Quoi.
Bah surtout, c'est difficile, en fait, ouais. D'avoir un... En fait, souvent, en poésie, on pense que la forme, c'est ce qui est le plus difficile. Mais on oublie à quel point le fond est extrêmement compliqué. Déjà parce que le fond, c'est ou avoir une idée originale, donc ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, philosophique très long, ou c'est d'être capable de transmettre une image, une vision du monde, une sensation qui exige d'avoir au contraire travaillé sa sensibilité pendant des années. Mais en fait, le fond fait lui-même l'objet d'un travail qui est au moins aussi important, voire plus important, peut-être parfois même plus douloureux, parce qu'il met en jeu plus de choses de notre part en termes de vécu, en fait. Donc je pense que c'est vraiment une erreur de dénigrer un poème juste en se basant sur la forme et en oubliant le fond.
Est-ce que tu, justement, quand tu écris, est-ce que ça vient toute seule, c'est un jet ? Est-ce que tu retravailles beaucoup ou est-ce que tu te fies à tes premières impressions ?
Les deux, en fait. Quand j'écris, je cherche un sentiment de justesse, que la chose sonne juste. J'essaye de m'imposer d'écrire tous les jours parce que si j'ai aucune inspiration, le fait que je le fasse tout le temps fait que l'inspiration viendra plus souvent.
Bien.
Après, il y a des vers qui parfois arrivent, qui sont très très bien, mais je vais toujours relire et retravailler quoi que je fasse et épurer, en fait. Essayer toujours d'enlever... parce que souvent, même quand on est inspiré, en fait, on écrira, je sais pas, 15 vers. Mmh. Et en fait, de cette inspiration, il n'y avait que 2 vers à garder.
Ouais.
Et les 15 vers n'ont été là que pour accompagner la naissance des 2 autres. Et après, il faut apprendre à les repérer, enlever tous ceux qui sont mauvais.
Et alors justement, comment tu fais le tri ? Parce que comment tu détermines qu'un vers est plus fort qu'un autre vers ? Est-ce qu'il exprime plus de choses ?
Je sais même pas tellement. Je pense que c'est vraiment une question... Il y a quelque chose d'assez instinctif. J'aime bien le concept de justesse, un peu comme en musique, quoi. Il faut tailler son oreille pour voir... Il faut développer et entraîner son oreille pour apprendre à repérer, en fait, qu'est-ce qui sonne juste. Je pense qu'il y a aussi une notion d'adéquation du fond et de la forme. Parfois aussi, il y a souvent, en fait, je pense que quand ça sonne pas juste, c'est justement un problème d'adéquation entre les deux.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment une alchimie particulière que l'on peut, et enfin, on a compris, que l'on peut obtenir si on écrit tous les jours et si effectivement on développe sa sensibilité. Est-ce que tu penses que la poésie peut changer le monde ?
Non, pas forcément, mais je pense que c'est comme... je pense que la poésie ne change pas le monde, je pense que la poésie ne sauve pas le monde, mais je pense que la poésie peut même pas tellement nous aider à changer, mais nous donner quelque chose comme du courage, de l'énergie, du réconfort, des choses dont nous avons besoin pour changer.
Ouais,
je pense qu'elle est, elle est même pas tellement utile au monde, en fait. Elle est utile aux hommes, et c'est en ça d'ailleurs qu'elle nous sert.
Et est-ce que tu penses que la poésie a autant d'influence aujourd'hui qu'au 19e siècle, par exemple, parce qu'on a parlé du 19e siècle? Il me semble que c'est un siècle où il y a eu beaucoup de grands poètes, Baudelaire, Victor Hugo, etc. Et là, effectivement, peut-être les poètes ont un peu moins de place dans notre société.
Non, parce qu'on surestime la place sociétale qu'avait Baudelaire.
Ouais.
Nous, on le voit à travers l'image
le prisme d'aujourd'hui.
Bah oui, en fait, on le connaît, on pense, il nous paraît plus célèbre qu'il ne l'était à l'époque, parce qu'on le connaît tous, parce qu'on le voit dans les manuels scolaires et tous. Mais il faut pas... Oui, et finalement, même un poète comme Victor Hugo, qui a eu une influence sociétale majeure, c'est avant d'être poète parce qu'il était écrivain à succès, mais écrivain de prose, de dramaturge, et c'est surtout parce que c'était un homme public, un intellectuel et un homme politique.
Mmh.
Et une des raisons pour lesquelles il avait une telle tribune pour ses idées, c'est aussi parce qu'il a été député.
Oui.
C'est pas, donc il faut pas, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et ne pas fétichiser
oui, tout à fait.
La c'est place
tout à fait,
sociale.
Tu as tout à fait raison. On va faire une toute petite parenthèse politique, comme tu es d'origine russe. Quel regard tu portes sur quelque chose qui n'est pas du tout politique, le conflit ukrainien russe?
Moi, je préfère ne
pas... D'accord,
ne
pas, comme tu veux.
Donc, ne, pas aborder
faire ne pas aborder le sujet. Effectivement, on l'aborde du matin au soir tous les jours, mais moi, je me suis dit... parce que j'avais lu dans Le Monde un article sur une poétesse ukrainienne, justement, et dont je ne me souviens plus le nom, dont j'ai parlé dans la première émission. Et elle était à la fois combattante et poétesse.
Mmh. Voilà. Il y en a beaucoup de poètes combattants.
Voilà.
Qui sont avec Blaise, on avait traduit les écrits d'un poète qui s'appelle Pavlo Vichebaba, qui est un poète ukrainien qui est aussi au front.
D'accord. Ah, je ne connais pas, donc ça sera intéressant, effectivement, que tu me fasses connaître ces poésies. Bon, alors maintenant, Juliette Sokolov, j'espère que je prononce bien ton nom. Est-ce que tu peux nous lire, justement, est-ce que tu peux nous faire connaître ta poésie, justement, la poésie que tu écris? Je crois que tu as sélectionné un ou deux poèmes, je crois, que tu vas nous lire.
Oui, je vais vous dire deux poèmes.
Je vais
les réciter très exactement, parce que je tiens toujours à les
donc,
dire.
Pour l'instant, tu n'as pas de recueil poétique, je crois. Il n'y a pas de recueil qui sont...
Non, c'est
publiés.
Encore en discussion actuellement.
C'est encore en discussion avec des éditeurs
Oui. Mais bon. Je vais dire un poème que je connais par cœur, parce que c'est un poème que je dis souvent à l'oral sur scène, que j'ai déjà l'occasion de dire, qui est un poème... Alors, il a beaucoup changé de nom. D'abord, il avait un nom breton. Parce que c'est un poème dédié à mon village en Bretagne qui s'appelle Kiriti. Et finalement, je l'ai renommé récemment Élégie pour les côtes bretonnes, mais c'est parce qu'il s'inscrit dans une série d'élégies que j'avais rédigées, que j'ai travaillé récemment. Et du coup, voilà. Et j'aime bien commencer l'introduction de ce poème par un tout petit cours de breton, parce que Kiriti en breton, ça veut dire. C'est un mot intéressant. Iti, ça veut dire petit.
Mmh.
Et Ker, c'est un mot assez varié qui peut désigner le chez-soi, le pays, la maison,
d'accord,
le village. Donc
d'accord,
c'est comme un petit chez-soi.
D'accord.
Et j'aime beaucoup c'est donc le nom de mon village.
D'accord. C'est un village qui est près de. Pour
sur
situer...
la pointe de Pamar.
D'accord.
C'est au sud de la pointe du Raz.
D'accord. Oui, donc nous t'écoutons.
Chut, mon cœur. Ce n'est pas grave si ton cerveau se coupe de sa tristesse et juin mourra 100 fois. Et puis viendra détresse. Et comme chez moi, les métros rouleront en ligne circulaire. Et Paris m'a appris qu'il n'y a rien à comprendre. Un métro passera, le siècle passe avec, les immeubles se lèvent, les phares cligne de l'œil, Kiriti s'ouvre et meurt. Et Paris m'a appris qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. Nous marchons dans Paname, les pigeons volent et chient, les chiens aboient. Mon attente se recroqueville et puis se met en boule, tandis qu'au fil des jours, encore un peu, tu coules et la Seine roule autour. Mais Paris me murmure, nous pouvons rester là. Debout, malgré le ciel vide et tous les alcools qui nous font ployer. Malgré cette voûte déserte et l'intime sentiment que tout divin ne fut jamais qu'une parcelle de cerveau dédiée à la survie. Malgré les trottoirs vidés de tes pas, les créations vont et viennent et nous congédient du désastre. Et si l'air tout autour le monde n'est qu'un ensemble d'objets qui contiennent la mort, nous avons toujours pour nous le secret de ces mots qu'on ne traduit pas. Mais Paris m'a appris que toutes les langues n'ont pas la même valeur. Si certaines se monnaient, d'autres parlent à crédit. Et maintenant, Kiriti est une langue coupée, en dérive dans le ciel. Et le dernier bateau a quitté le port. Le goémon fermente le long des fours en pierre. Et le reste des vieux regarde depuis la porte la foule des Parisiens qui marchent le long des quais. Devant la vieille auberge, entre les hortensias et devant les filets. Et ces gens-là n'ont pas les mots qui conviendraient sur les femmes et la mère sur le bon Dieu et ses saints, aux petites statuettes, pour tendre un pont de mots qui sauverait quelque chose de l'oubli. Mais artistes et paysans, artistes et comédiens apprécient le cadre de vie et quelque chose en moi crève et se fend d'un tel chagrin. Je crois que j'ai perdu la mer, sans boussole ni filet, sans mon phare familier. Les marins ne sont plus qui savaient les étoiles et la science du nuage, et la langue m'est coupée à moi qui voudrais dire. Kiriti n'est pas que le berceau de mes ancêtres, Kiriti est bien plus que la pointe qui ferme le sud-ouest acéré de la langue de France qui s'étire au ponant, et Kiriti est bien davantage que ces petits vergers serrés entre quatre pierres et ces roses trémières. Et Kiriti s'endort, bercé de ses embruns, alors que la mer monte.
Bravo, c'est très joli. Je crois que tu vas nous lire un deuxième poème. Donc celui-là s'intitulait Kiriti.
Alors, je l'ai appelé, c'est plus une élégie, mais oui, on pourrait l'appeler Kiriti.
Tu l'as appelé une élégie ?
Élégie pour les côtes bretonnes.
Élégie pour les côtes bretonnes, donc de Juliette Sokolov. Très beau poème.
Voilà, on va bientôt marquer une petite pause musicale. J'espère que vous lirez des poèmes pendant les vacances. Sinon, vous pouvez toujours écouter les podcasts de l'émission depuis le mois de janvier. Et puis, j'ai aussi écrit un recueil de poésie, Impression, Philippe Soulier Champeval, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies en le commandant. Donc, on va continuer l'émission car elle n'est pas totalement terminée et surtout lisez beaucoup de poésie. Cet entretien a été très intéressant.
Sans froideur, ni chaleur, surtout sans société, parce que les autres...
Donc je vais dire un autre poème, je crois un peu sur la thématique marine, qui est une autre élégie, et élégie pour les baleines à bosse. Qui, sinon vous, soupirant aux voix calmes, avec vos bosses blanches et les trombes du souffle, qui, sinon l'engouffreuse, l'énorme, la couronnée, la perle du fanon, l'écarlate du muscle sous la souplesse du flanc. Sans vos consolations, vos berceuses marines, la mer se fait méchante. Qui, sans vos symphonies, qui traversent l'espace et bercent les étoiles à jamais, à la grâce, à la dérive, avec les rêves d'ailleurs, le serpent du bitume lové dans l'utérus, avec mes submersibles, mes fuites, mes trahisons, avec 90 les possibles, tout le net, comme un amas de câbles, il hante les fonds marins comme un tas de ferrailles qui gravitent dans le vide, et autant de mots doux, de messages d'étincelles qui échouent sans tarder. Et puisqu'autant d'éclairs ne peuvent nous tirer du sommeil, avec tout ce gâchis qui sent les bienveillantes larder de longs harpons et les coffres à prophètes pour vomir le sacré puis répandre la parole qui, si je nageais, lentement vers le large, si je fermais les yeux, goûtais le ciel, et qui, si je louais, aurait pu me répondre.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, c'est le temps des poètes.
Si je mourais là-bas, si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis mon souvenir, éclaté dans l'espace, rougirait de mon sang le monde tout entier, les monts, les vals, les bois et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant en toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour infini descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souvint-en quelquefois au moment de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur, mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie, ô mon unique amour. Et ma grande folie.
Vous êtes bien sur 89.4, Radio Libertaire, c'est le temps des poètes. Les oiseaux. Le soir, au coin du feu, j'ai pensé bien des fois à la mort d'un oiseau quelque part dans les bois. Pendant les tristes jours de l'hiver monotone, les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne, se balance au vent sur un ciel gris de fer. Oh, comme les oiseaux doivent mourir l'hiver! Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes, nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes dans le gazon d'avril où nous irons courir. Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir? Tiens, ça me rappelle un film. Ce poème est un poème de François Copé, extrait de « Promenade et intérieur », écrit en 1875. La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. Eh bien, nous aussi, nous allons mettre les voiles pour les vacances. Nous nous retrouverons avec plaisir en septembre pour une nouvelle émission du Temps des Poètes. Thank you. même, au revoir et bonnes vacances.
Saveur à un monde rempli d'enfants, mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé en s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent. Donne à ceux qui sourient, et combien le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler du bon temps.